BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
Le futur a trouvé son rythme de croisière, c'est les pros des cryptos le vendredi. Bienvenue à tous, nos talents, ils vont nous accompagner cette semaine. Louis Laszlo, directeur technique et produit de Myria. Bonjour Louis.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue. Et Stanislas Barthélémy. Bonjour Stanislas.
Bonjour Guillaume.
Le président de l'ADAN aussi à nos côtés. Dans un instant, on parcourra les grands actus crypto de la semaine. On vivra aussi SpaceX, bien sûr, sur BFM Business à 15h30. Ratez pas l'ouverture de Wall Street et ses premières cotations de SpaceX. La cloche, peut-être Elon Musk sonnera-t-il la cloche à l'ouverture, à vivre et à suivre, à regarder aussi à la télé, en direct sur BFM Business. Xavier Fenot nous rejoint. Bonjour Xavier.
Bonjour Guillaume.
Associé chez Interactive Trading. Bon, en attendant, vous savez, il y a quelques années, on disait toujours to the moon sur les cryptos, dans l'écosystème crypto. Le Bitcoin n'arrêtait pas de progresser. Puis là, voilà, il y a une forme de rechute depuis maintenant quelques mois. Bitcoin cet après-midi, on en est où? On est à 63 380 $. Comment est-ce que vous voyez graphiquement la suite des événements, Xavier?
Ben, c'est vrai, vous avez raison Guillaume, on est toujours sous pression, même si finalement cette semaine on est plutôt à l'équilibre, on est de retour sur les plus bas de l'année, c'était 60 000 $. Alors, on a la fête la semaine prochaine avec le premier discours de Kevin Warsh qui sera attendu au tournant, puisque bon, on l'a vu cette semaine, on a une inflation aux États-Unis qui remonte de 3,8 à 4,2. Le marché anticipe d'ailleurs entre pas de hausse des taux et une hausse des taux d'ici la fin d'année. En fait, ça a tendu le marché obligataire, les actifs risqués. Mais depuis hier, le message de Trump au sujet d'un accord a priori, bon, on prend toujours des pincettes parce que depuis des semaines, la communication au sujet de l'Iran, ça part un peu dans tous les sens. Ça détend les actifs risqués, les taux, le dollar. Et donc, le Bitcoin bah, essaye de tenir les 60 000 $. On a quand même plus de 4 milliards de dollars de retrait sur les ETF adossés au Bitcoin en un mois. Bah, comme si les flux étaient vraiment drivés par les valeurs IA, et vous en avez parlé juste avant, voire peut-être même par SpaceX, qui débute sur le marché tout à l'heure. Donc moins d'intérêt finalement sur le marché crypto au sens large. Alors Bitcoin c'est une chose, mais c'est encore beaucoup plus compliqué sur les altcoins, hein. Même son dauphin l'Ether, bah, on est passé sous les 1 700 $, contre plus de 2 300 $ il y a un mois, ça fait quand même moins 30%. Alors pour revenir sur Bitcoin, 55 000 $, 60 000 $, c'est pour moi vraiment la grosse zone importante à défendre parce que si on fait un peu d'analyse technique, c'est le point de passage de la moyenne mobile à 50 périodes en données mensuelles. Pour faire simple, en fait, c'est ce qui matérialise la tendance haussière long terme depuis 2015. Donc, c'est pas n'importe quoi. À chaque fois qu'on est revenu dessus, bah, Bitcoin a réagi, est reparti. A commencé par 2015, on était à 200 $, hein, le Bitcoin Guillaume en 2015 pour se souvenir, ça fait rêver. Même chose en 2019, on a fait la même chose en 2020-2022, quand Bitcoin est passé de 65 à 15 000 $, il a réagi sur cette MM50 mensuelle. Donc voilà pourquoi c'est pas négligeable. C'est déjà effectivement arrivé plusieurs fois ces dernières années que pendant des mois, on se dit bah, que cette fois, ça sera différent, ça repartira pas. Mais dans le cadre d'une stratégie long terme, on est pour moi sur la zone majeure. Et pour avoir des éléments concrets de reprise, de la dynamique, il faudra que bah, Bitcoin repasse 75 000 $ à moyen terme, 65 000 $ à court terme. Donc voilà ce que je vais surveiller ces prochains jours et semaines. Sous 55 000 $, là, ça commencera effectivement à m'inquiéter.
Xavier Fenot, Interactive Trading, merci beaucoup Xavier de nous avoir accompagnés. Alors justement donc, quel impact sur les cryptos, cet engouement autour de SpaceX et cette introduction? Mais il n'y a pas que SpaceX hein, qui frappe à la porte, il y aura d'autres introductions à venir dans l'intelligence artificielle. On parle d'Anthropic, bien sûr, d'OpenAI. On accélérera dans justement la découverte des différents impacts pour le marché des cryptos également. L'Europe, elle, c'est la tokenisation qu'elle compte accélérer. En tout cas, un des architectes de la réglementation MiCA plaide pour accélérer la tokenisation des marchés européens. La tokenisation peut être même plus importante que le développement de la DeFi. Analyse à suivre de nos pros des cryptos. Et on parlera de Mythos. Vous savez, Mythos, cette nouvelle intelligence artificielle capable de percer les failles de sécurité un peu partout. Alors du coup, est-ce que vous devez adapter vous aussi votre façon d'investir, faire attention davantage aux plateformes crypto, voire ne plus investir sur les plateformes crypto traditionnelles? C'est une question qu'on posera parce que Mythos, manifestement, parvient à percer quasiment tous les secrets, toutes les failles de sécurité. On en parlera. C'est les pros des cryptos pour vous mettre sur l'avant de la vague chaque vendredi, puis tout au long du week-end en podcast et replay.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Avec donc Louis Laszlo et Stanislas Barthélémy, bonjour messieurs, on est ravis de vous retrouver. SpaceX s'introduit en bourse aujourd'hui, c'est un moment iconique hein, pour les marchés financiers. On en parlait un tout petit peu avant cette émission, mais je vais vous la poser en direct aussi, cette question-là. Voilà. Allez, vous êtes prêts? Vous m'avez dit que vous étiez prêts à y répondre. Si vous aviez le choix là, entre investir dans SpaceX et investir dans le Dogecoin, vous c'est les cryptos, donc c'est le Dogecoin, vous choisiriez quoi? Le Dogecoin ou SpaceX, même si c'est pas de la crypto?
SpaceX, évidemment.
Ouais, je pense que c'est pareil, SpaceX, évidemment. Peut-être un petit coup pour le perpétuel autour de SpaceX et de son introduction en pré-marché, mais SpaceX.
J'hallucine. Vous, c'est les cryptos, c'est pas la bourse. Là, vous dites SpaceX.
Mais le terme crypto est assez confusant. Il peut y avoir une infinité de cryptos, mais en réalité, c'est mon avis personnel, il y en a que quelques-unes qui ont vraiment un fondamental et un avenir prometteur. D'autres peuvent être des blagues, les blagues peuvent avoir de la valeur. Et après, chacun c'est les goûts et couleurs sur est-ce que Dogecoin qui monte à 50 milliards, est-ce qu'on trouve ça drôle? Moi, un peu moins, mais SpaceX, au moins, il y a une entreprise, de la tangibilité et de l'IP. Ouais, là, est-ce que ça vaut 2000 milliards? C'est une autre histoire.
Là, je vous ai demandé, entre Dogecoin et SpaceX, vous choisissez SpaceX. Ok, Bitcoin, SpaceX, vous choisissez quoi?
Sans hésiter.
Vous choisissez Bitcoin, vraiment?
Ouais. Bitcoin, sans hésiter aussi.
Ah ouais.
Vous pensez pas biaisé, par contre.
Vous pensez pas qu'il y a plus de gains à venir sur SpaceX? On l'attend en hausse de 30% aujourd'hui, si SpaceX, le Bitcoin, il fait plus du tout ça en une seule journée, quoi.
Après, c'est pas du tout, comme on le disait, c'est pas du tout la même thèse d'investissement. Dogecoin, on va se rapprocher du casino et du gambling. Bitcoin, on va être sur une thèse d'investissement pour construire un patrimoine et une épargne sur du long terme, protéger une épargne et un patrimoine sur du long terme. SpaceX, on va chercher une exposition au marché, autour du marché de l'IA, du spatial de demain. Et des rendements, potentiellement des dividendes. Mais on n'a pas du tout la même thèse d'investissement et la même stratégie patrimoniale.
C'est la limite du tu préfères. En réalité, on va répondre les deux parce qu'on a tous un peu de Nasdaq quelque part et un peu de Bitcoin. Donc on sera exposé aux deux.
SpaceX qui s'introduit donc aujourd'hui à vivre en direct sur BFM Business et ce sera un BFM Bourse 100% ou quasi 99% SpaceX aujourd'hui. Est-ce que justement cette introduction en bourse et puis les autres à suivre, OpenAI, etc., toutes ces levées de fonds du marché actions, ça prend de l'argent au marché crypto? Est-ce que c'est autant d'argent qui n'ira pas aux cryptos en l'occurrence?
Il y a nécessairement un effet d'éviction, c'est-à-dire que on voit l'impact même médiatique des personnes, on l'a vu aussi sur tous les bandeaux de certaines banques, de certaines fintech, de certains acteurs crypto où on pouvait avoir accès, on va dire, à cet IPO de SpaceX. On le voit aussi sur les volumes qui vont sur les ETF Bitcoin. Il y a probablement un effet d'éviction au profit de SpaceX, qui concerne d'ailleurs pas que la classe d'actifs crypto. Et vous le disiez justement en introduction, derrière, c'est de se dire que ça a été une année un peu particulière au regard des mastodontes qui arrivent aussi, OpenAI, en l'occurrence, et Anthropic. Donc oui, clairement un effet d'éviction. Après, la réalité du jour n'est pas forcément celle du lendemain. Peut-être que l'IA, pour différentes raisons aussi, va se calmer en termes de capitaux et donc de flots d'argent qui vont vers ces entreprises, et que Bitcoin reviendra ou pas d'ailleurs.
Oui, c'est beaucoup de manque à gagner pour le marché crypto. Tout ce qui va à l'IA, tout ce qui va aller aujourd'hui à SpaceX, d'un coup, on parle de 100 milliards de dollars des particuliers investis dans SpaceX là, dès l'introduction.
Bah, alors c'est sûr, de toute façon, la taille, le gâteau est sur le même, et à un moment, il faut le partager entre les différents marchés. Donc il y a forcément un effet de balance et de vase communicante. Donc oui, comme disait Stanislas, temporairement il va y avoir un regain d'intérêt. La preuve, on est dans BFM Crypto, on va parler au moins, je pense, 10 minutes de SpaceX.
On arrête, je promets, on arrête et on vivra l'introduction de tout à l'heure.
Donc oui, il y a forcément un impact sur le marché crypto à court terme, puisque les gens qui ont tendance à aller sur des classes d'actifs un peu plus risquées que sur du marché obligataire ou autre, vont arbitrer l'un ou l'autre, ou potentiellement un peu moins d'un pour un peu plus d'autres. Par contre, à long terme, je pense que ça, c'est deux sujets qui ont rien à voir et ça rentrera dans une stratégie patrimoniale globale.
Ça rentrera dans l'ordre, en quelque sorte. Alors, on n'arrête pas ici de dire que les tokens vont révolutionner la bourse traditionnelle. SpaceX aussi est une révolution à soi seul. Est-ce qu'on a les deux là? Est-ce qu'on voit des actions tokenisées SpaceX apparaître, des tokens SpaceX?
En pré-marché, surtout typiquement, on parle d'Hyperliquid assez régulièrement ici. SpaceX est en pré-marché, est en pré-IPO depuis, tradable sur Hyperliquid depuis plusieurs semaines. Et les volumes sont colossaux. Et c'est pas le seul. Il y a un certain nombre de prochaines IPO qui sont tradables déjà sur Hyperliquid ou sur des prediction market.
Et c'est bien.
Alors, je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, déjà, ça donne typiquement, il y a beaucoup aujourd'hui de gestionnaires et d'asset managers qui utilisent les pré-marchés crypto ou les prediction market pour tabler des intérêts de marché. Et prendre la température sur le marché et sur les intérêts d'investisseurs.
C'est ce que je veux dire, c'est comme un thermomètre. C'est-à-dire, s'il y a une bourse... Alors, c'est plutôt des perpetuals que des vrais jetons, et j'expliquerai la différence. Mais sur ces perpetuals, comme du dérivé, qui se trade en 24-7, il y a suffisamment de volume pour se dire que c'est un thermomètre, et donc d'avoir quelque part un indicateur, plutôt que de dire à l'aveugle, tiens, quel va être le prix. Pour le coup, il y a une forme de pricing du marché en amont de l'IPO. Alors après, ça peut changer en fonction des volumes, des données qui vont changer. Ça qui est intéressant, mais ça, c'est, on va dire, une partie dérivée, c'est les perpetuals. La partie jeton, c'est d'avoir une vraie action chez un conservateur, une institution financière, et derrière, il y a une émission d'un jeton, forme de wrapper, et ce jeton peut circuler sur blockchain. Et après, on peut l'utiliser 24/7 comme collatéral dans des applicatifs de finances décentralisées. Et ça, c'est complètement différent, perpetuals et la partie tokenisation. Mais c'est un wrapper, c'est pas la vraie action qui est tokenisée, c'est une exposition au prix. S'il y a du dividende, ça peut être intégré dans ce wrapper, mais il n'y a pas de droit de vote de gouvernance. Par contre, un jeton qui circule 24/7.
Plus fondamentalement maintenant, est-ce qu'il faut être optimiste à nouveau sur les cryptos en se disant qu'on a touché un point bas cette semaine sur Bitcoin ou au contraire rester pessimiste? Pour le savoir, il faut peut-être regarder aussi ce que font les baleines avec une baisse des cryptos et notamment du Bitcoin. Est-ce que les baleines en profitent pour racheter ou toujours pas? Est-ce qu'on a des données là-dessus?
Il y a pas mal de, on le voit toujours, hein, qu'il y a toujours pas mal de volume, il n'y a pas de désintérêt, hein, il n'y a pas une fuite massive hors des ETF, il y a pas mal de prises de position. Après, bon, comme on le disait, il y a pas mal d'autres sujets globalement sur le marché de l'investissement. La macro est non plus très en attente de la situation géopolitique mondiale. Oui. Et il y a beaucoup, je sais pas comment on peut les appeler ça, les cyclistes ou les croyant dans le cycle Bitcoin qui reviennent et qui disent, je vous l'avais dit, le cycle n'est pas mort, on s'approche du bottom comme il a été écrit dans la Bible Bitcoin, et donc on suit juste l'histoire et le schéma. Et est-ce que si on regarde les graphes, est-ce qu'on sait totalement faux? On verra. S'il rebondit, comme le disait Xavier dans l'introduction, ils ont les croyants du cycle avaient raison.
Oui, vous vouliez dire un mot, Stanislas, allez-y.
C'est quand on analyse aussi les bitcoins qui sont mouvants on-chain, c'est-à-dire les flux, il y a plus de 60% qui ne bougent pas dans l'année. Donc en réalité, je veux dire que le contraposé de l'institutionnel, c'est de dire que c'est des inflows qui, dans le temps, et qui font qu'il y a peut-être un peu moins de mouvement, donc probablement un peu moins de volatilité aussi.
Et par exemple, Michael Saylor, stratégiste, son entreprise, qui a fait du Bitcoin le cœur de sa trésorerie, il avait commencé il y a quelques jours à vendre des Bitcoins. Alors là, quel symbole quand même, la promesse un peu égratignée, en tout cas en première lecture. Est-ce que, profitant de la baisse du Bitcoin, il en a racheté depuis des Bitcoins?
Oui, il en a racheté, et ce qui est assez drôle, c'est qu'il avait déjà exprimé l'idée en testant le marché, en disant probablement qu'on vendrait du Bitcoin. Et finalement, il l'a fait sur 32 bitcoins. C'est plus un symbole de montrer que cette règle n'est pas nécessairement intangible. J'ai vu qu'hier, il avait pris encore la parole pour dire que finalement, il disait de ne jamais vendre ses bitcoins, mais il parlait plutôt au titre d'individu plutôt que d'entreprise. Donc en fait, l'entreprise peut les vendre, là où lui-même, les siens, il va les garder. Ce qui est intéressant, c'est toujours la même chose sur stratégie, c'est la balance entre sa capacité à acheter du bitcoin et derrière la capacité à verser des dividendes sur un produit qu'il avait structuré. Donc le cash qui lui permet de financer les achats de Bitcoin. Mmh. Et donc, c'était un retournement assez intéressant la semaine dernière, c'est qu'une partie de l'écosystème crypto se disait que ça aurait été une bonne nouvelle qu'ils vendent beaucoup de Bitcoin pour qu'il ait suffisamment de cash pour tenir encore longtemps. Ce qui est un renversement total, parce qu'il y a un ou deux mois, on se disait qu'il faut qu'il achète un maximum de Bitcoin pour que Bitcoin continue de monter.
Oui. Et donc, vous êtes plutôt convaincu par sa stratégie, le fait qu'il ait vendu des Bitcoins, ok, ça peut abîmer l'image, mais en fait, c'est très pragmatique et plutôt opportuniste.
C'est plus pragmatique et donc moins idéologique, mais moi j'ai toujours un doute, on va dire ontologique, vis-à-vis de cette stratégie et de l'ingénierie financière qui peut faire que cette thèse monodirectionnelle du « je mets tous mes œufs dans le même panier Bitcoin » et de tenir des cycles qui soient longs ou courts, je suis toujours en doute face à ça et un peu fasciné de voir l'expérimentation. Ouais.
Mais en vendant des bitcoins, il montre que sa trésorerie peut être liquide, ce qui est un enjeu. Pour intégrer un jour le S&P, par exemple, il faut que cette trésorerie soit liquide.
Et à l'inverse, il a une position, une perte non réalisée de 10 milliards. Donc s'il vend moins cher ce qu'il a acheté pour financer les dividendes, ça va être compliqué quand même, logiquement.
Non, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça fait 2 ans qu'on dit le jour où Strategy vend un bitcoin, c'est le signe noir pour Bitcoin et ça sera le signal où, sauf qu'il peut. Au final, il a vendu du Bitcoin et il ne s'est rien passé. Il y a eu un petit décrochage temporaire sur le marché, mais on n'a pas perdu 30% de Bitcoin d'une semaine sur l'autre.
Non, mais tout ce qui est excessif est insignifiant.
Non, mais c'est
après 32 Bitcoin, il faut savoir raison garder. Ce n'était pas grand-chose, c'est plus le symbole. Mais ça veut dire qu'il pourra le faire. Et toute la question, c'était de savoir dans le laps de temps sur la semaine qui s'est écoulée, avec la chute des cours, c'est si oui, il a vendu, et si oui, combien, et s'il a beaucoup vendu, tant mieux. C'est ça qui était assez drôle.
Ouais. C'est les pros des cryptos dans 15 minutes et 15 secondes. Décollage de SpaceX sur les marchés financiers, la cloche peut-être sonnée par Elon Musk en personne. On regardera ça, on suivra ça, ce sera en direct sur BFM Business.
D'ailleurs, son fils.
Son fils
X. Ah, il emmène partout. Je pense que ça sera encore plus symbolique.
Ah, effectivement, ouais.
Ouais. Pour annoncer un rapprochement avec XAI.
Oui, bah oui, son fils, c'est vrai que son fils s'appelle X.
Ouais.
Oui, j'avais pas fait XAI, c'est voilà, SpaceX. Ouais. Bon, c'est lourd à porter quand même comme prénom. C'est court, mais c'est lourd. Le Clarity Act, on reste aux États-Unis. Tiens, on en est où là? On approche de l'échéance de juillet pour l'adoption du Clarity Act. Les choses ont-elles enfin accéléré cette semaine?
Ça dépend des positions politiques. C'est très dur de le lire et ça se ressent derrière dans les marchés prédictifs et polymarket. C'est ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a un doute. Et surtout, il y a une fenêtre de tir qui est assez maigre avec derrière des élections de mi-mandat et un potentiel renouvellement d'une partie du Sénat et de savoir qui garde le contrôle. Aujourd'hui, c'est presque un 50-50. Donc, on ne sait pas si ça va être voté. Et ça n'aide pas, quelque part, à donner des nouvelles positives sur le secteur. Ce doute ne profite que très peu à l'accusé.
C'est très, très, très important, même pour vous, les acteurs européens, les cryptos, le Clarity Act, c'est un enjeu pour vous aussi?
C'est surtout que ça va un peu remettre, on a déjà discuté à plusieurs reprises dans cette émission, ça va remettre un peu la balle au centre, ou en tout cas clarifier un certain nombre de choses.
Alors, ça ne devrait pas avoir cette incidence, mais ce qui est intéressant, comme en ce moment, il y a une consultation sur MiCA 2, c'est la Commission européenne qui dit, tiens, on se pose des questions sur MiCA 2, est-ce qu'il faut changer, si oui, quoi? Il y a forcément le contexte outre-Atlantique qui joue. Si le Clarity Act donne un signal clair avec des mesures qui tranchent en faveur soit d'un côté, soit de l'autre, plutôt on va dire pour les crypto-natifs, mécaniquement, les dispositions mentales de nos régulateurs et de l'écosystème changeront parce qu'il faudrait s'adapter à un principe de réalité. Donc, il y a toujours un lien, malheureusement.
Et sur le Clarity Act, on parlait de régulateurs, ils sont toujours pas d'accord entre eux sur les attributions entre la CFTC et la SEC, sur qui fait quoi, qui intervient à quel moment et sur quel sujet. Et je pense qu'il y a aussi un gros enjeu autour de ça, sur définir la limite de chacun et l'intervention de chacun sur les cryptos, comme sur les marchés actions ou autres produits financiers.
Et si le Clarity Act échoue, une sénatrice américaine prévient. Elle avertit, si c'est un échec pour le Clarity Act, eh bien la Chine écrira elle-même les règles de la finance de demain, la Chine plutôt que les États-Unis. C'est crédible, ça?
Sur l'IA, j'aurais entendu. Sur les cryptos, aujourd'hui, la Chine est plutôt très, très précautionneuse. Donc, en vrai, je pense qu'on ne parle pas du tout de la même narrative. On pourrait remplacer crypto par IA. Là, je dirais 100% oui. La partie crypto, je pense que ça change. Je pense que c'est de la politique et beaucoup de
bruit. Après, le principe de la Chine, c'est qu'on ne la voit pas venir. Hein. Elle nous a surpris dans plein de domaines et puis aujourd'hui, elle est devant.
Oui, mais on voit les échanges qui se font, qui sont principalement en dollars. Et donc, il y a un peu les sujets des zones économiques qui transactent entre elles. J'y vois surtout un simplisme politique pour essayer de dire on a une fenêtre de tir pour le faire passer maintenant. Sinon, les Chinois gagnent. C'est entre guillemets une position qui se veut consensuelle en disant on va se mettre d'accord parce que sinon les Chinois gagnent. Ça me paraît être un peu plus complexe que ça.
L'Europe, pendant ce temps, hésite, doute, entre l'euro numérique et les stablecoins euros. Un des architectes de la réglementation européenne, MiCA, lui, plaide pour favoriser une tokenisation accélérée. Tokeniser de façon beaucoup plus rapide, aller beaucoup plus vite dans cette tokenisation, plutôt que de passer du temps à vouloir développer une finance décentralisée. Pourquoi cette préconisation en faveur d'une tokenisation plutôt que du développement de la finance durable ?
Ce qui est marrant, c'est que la même semaine, il y a Morgan Stanley qui avait fait des dépôts bancaires tokenisés qui dit au final, les dépôts tokenisés, ça intéresse personne. Donc c'est marrant que sur la même temporalité, il y ait des gens qui l'ont essayé qui disent que ça ne sert plus à rien. Après, c'est compréhensible d'un point de vue régulateur. D'un point de vue régulateur, réglementer la tokenisation d'actifs qui sont déjà réglementés, qui sont déjà connus, identifiés et simples, c'est mille fois plus simple et mille fois plus abordable et accessible que d'aller essayer de réglementer quelque chose qui échappe à toute règle et tout contrôle avec la DeFi, et quelque chose que pour l'instant, tout régulateur a poussé le plus loin possible de son scope. Donc c'est compréhensible que c'est plus facile d'aller réglementer quelque chose qui s'apparente à quelque chose qu'on connaît déjà et qui est déjà réglementé, qui est déjà cadré, etc. Donc c'est de cette vision que je le vois.
Plus que pour des enjeux stratégiques.
Je pense que tokenisation et DeFi ne sont pas à affronter l'un ou l'autre. Ouais. Chacun va servir un certain nombre d'usages différents. Et donc on le verra. Et d'ailleurs, l'avenir nous le dira sur MiCA 2. Est-ce que MiCA 2 va s'intéresser à la DeFi? Est-ce que le MiCA 2 va enterrer la DeFi complètement au profit de la tokenisation? Ça, on ne sait pas. Mais je pense qu'il ne faut pas affronter l'un ou l'autre. Les deux ont intérêt.
Moi, je poursuis le propos, c'est qu'en réalité, c'est toujours pareil. Tokeniser, c'est représenter, que ce soit de manière native ou quelque chose qui existe dans le monde traditionnel, sur une blockchain. Mais c'est pas le tout de tokeniser, c'est que derrière, il faut les applicatifs qui suivent. Et les applicatifs peuvent être apportés par la finance décentralisée. Après, on aime ou on n'aime pas ce terme, parce que toute la finance décentralisée n'est pas vraiment décentralisée. Mais c'est le traitement par la programmabilité d'actifs qu'on a représenté de la même manière sous forme de token. Donc je trouve ça un peu dommageable d'opposer les deux, sachant que pour moi, ils se complètent complètement. C'est une tautologie, pardon. Le sujet, c'est plutôt de savoir comment ces applicatifs, qui porte la responsabilité, est-ce que c'est le développeur, est-ce que c'est l'agrégateur, c'est la personne qui donne accès, est-ce que c'est la personne qui va manager les paramètres de risque, qui pourrait demain être un asset manager. C'est plutôt ces sujets-là sur lesquels il faut répondre. Mais opposer les deux, je trouve ça dommage parce qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre.
Mmh. Oui, et j'aurais découvert Mika 2. Alors, tout le monde va nous dire c'est un Mika 2, tout ça. Mais c'est vrai en plus, c'est compliqué. Très compliqué. En même temps, il faut réguler. Alors voilà, le chemin de crête, tout le monde essaie de le dessiner, ce chemin de crête, et les Américains aussi, même s'ils y vont à grand-peine. On a compris que Clarity Act, ce n'était pas encore complètement gagné. C'est les pros, les cryptos à retrouver tout au long du week-end. Et lundi, bien sûr, Sandra Gondouin pour le club BFM Crypto. L'IA, l'intelligence artificielle, bouscule tous les secteurs et bousculera peut-être la sécurité de vos cryptos. L'arrivée de Mythos, cette IA qui détecte les failles de sécurité dans quasiment n'importe quel système, l'arrivée de Mythos doit-elle pousser les détenteurs de cryptos à changer leurs habitudes et se protéger encore davantage?
Pour ceux qui sont intermédiaires, c'est-à-dire qui consomment de la crypto via des intermédiaires qui ont pignon sur eux et qui sont régulés, c'est plutôt la cybersécurité de l'entreprise qui doit s'adapter, mais au titre individuel, j'identifie pas tellement de problèmes. C'est plus pour ceux qui consomment la crypto et qui l'utilisent eux-mêmes avec leur portefeuille, qu'on appelle les self-hosted wallets, les portefeuilles auto-hébergés, et qui vont interagir avec des protocoles de finances décentralisées pour certains, qui reposent sur des smart contracts. Et c'est là où il faut faire sa diligence, sa due diligence, de vérifier que ces smart contracts ont bien été audités, ou alors qu'ils sont pas trop trop complexes ou nouveaux, parce qu'il pourrait y avoir des failles et des risques. Et ce type de modèle LLM, bien entraîné, pourrait identifier pourquoi pas des failles. Donc je pense qu'il ne faut pas surréagir comme on a pu voir une partie de l'écosystème qui dit tiens, avec l'arrivée, ça y est, de Mythos, enfin, c'est fable.
Tout est fable, tout est fini.
De dire oui, tout est fini, il faut révoquer tous ces accès aux smart contracts, etc. Il faut savoir raison garder, mais c'est sûr qu'il faut intégrer que, on va dire, d'industrialiser des failles, ça ira un peu plus vite.
Ouais. C'est ça, ça va juste complexifier les attaques, ça va donner plus de puissance et de moyens pour déclencher les attaques. Après, il faut toujours voir, en cyber, il y a toujours un ratio entre opportunité et bénéfice et coût, plutôt, pardon, opportunité et coût pour les attaquants. Aujourd'hui, je vous mets au défi de passer un peu de temps sur Fable, vous allez voir combien ça coûte. Donc faire un audit de smart contract sur Fable, il faut que ça soit rentable derrière ce que vous allez chercher. Donc il y a ça. Et vraiment, Fab, n'importe quel LLM ou l'IA demain, l'IA ne casse pas des blockchains, elle va casser des intermédiaires ou des acteurs de la chaîne.
Voilà.
Et avant qu'on parle de ça, comme on pourra parler du quantique, je pense que votre banque, vos réseaux sociaux seront plus à risque que la blockchain.
Je voudrais juste vous signaler qu'Anthropic adore donner des noms français à ses applications. Claude, c'est L-A-U-D-E, on n'est pas dans l'anglais, les amis. Et Fable, c'est un mot français aussi. Ils aiment le... Si nous, Français, on n'est pas capable de le détecter, qui va le faire Donc voilà, il y a une culture manifestement francophile chez nos amis d'Anthropic. Et on n'a pas parlé de quantique, mais il y a la question aussi de l'impact qu'aura le quantique sur les cryptos. Tim Draper, un milliardaire américain, n'est pas très inquiet. En tout cas, beaucoup moins pour le Bitcoin que pour les banques. Pour lui, le quantique va davantage poser problème au secteur bancaire qu'aux cryptos et au Bitcoin notamment.
Il a raison, la menace du quantique, elle existe sur les blockchains, mais j'ai envie de dire que les blockchains, les principales, sécurisant tellement de valeur, il y a un intérêt à trouver pour les parties qui peuvent être cassées par le quantique une solution, et donc on modifierait le code de la blockchain pour éviter les attaques quantiques. J'ai envie de dire que il y a un intérêt à le faire. S'il y a des centaines de milliards comme sur Bitcoin qui sont valorisés, collectivement, il y a un intérêt à modifier les parties qu'il faut. Là où une grande partie des systèmes d'information traditionnels, dont ceux des banques, repose sur, on va dire, une cryptographie qui, elle, peut être attaquée par le quantique. Alors, Louis est plus technique que moi, mais c'est un peu ma lecture.
Mais en fait, tout le monde a le même problème, que ça soit. Banque, crypto,
Et comme on dit, quand tout le monde a le même problème, il n'y a plus de problème pour personne.
C'est ça. Et en plus, les solutions sont déjà là. Là, c'est surtout la façon dont l'implémenter. Et si on regarde les banques, c'est plus complexe parce que c'est des vieux systèmes qui nécessitent de repenser l'architecture globale pour pouvoir introduire ça. Peut-être un moment pour passer à des technologies plus blockchain et plus Web3 que pour abandonner des dinosaures d'il y a 20 ans qui font aujourd'hui tourner un certain nombre de systèmes bancaires. Potentiellement une opportunité aussi technologique. Mm-hmm. Mais tout repose sur les mêmes technologies de chiffrement. Les mesures pour mitiger ça existent déjà. On parle déjà d'algorithmes de chiffrement résistants au post-quantique depuis plusieurs années. Donc les solutions sont là. Maintenant, il faut les implémenter, gérer le changement sur plusieurs années. Sur Bitcoin, il y a déjà un certain nombre de discussions passionnées dans la communauté sur les différentes façons de le faire, avec rupture, par rupture, avec un fork, pas de fork, etc. Voilà, les solutions sont là.
C'est vous qui êtes en charge de ça chez Meria, c'est ça?
Je suis directement concerné, mais les solutions existent, on les a déjà en place sur un certain nombre de choses, donc on n'a vraiment pas peur.
Le sujet sur le quantique qui est intéressant, c'est la génération des premières adresses. Est-ce qu'il y avait vraiment de l'entropie, c'est-à-dire vraiment de l'aléatoire? et en réalité pas tellement sur les tout premiers logiciels, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ce qui fait que le sujet, c'est en gros comment on met à l'abri les bitcoins de Satoshi. Et comment demain, il pourrait éventuellement, s'il a envie, oui, ou ce groupe de personnes a envie, les redemander, mmh, en évitant que le quantique casse justement l'accès à cette partie. Donc, ce n'est pas tant la blockchain que l'aléatoire à l'époque qui était protégé.
Les pros des cryptos à retrouver tout au long du week-end et sur notre chaîne YouTube, bien sûr. Merci à tous les deux. Louis Laszlo, directeur technique et produit de Meria. Merci à Stanislas Barthélémy, le président de l'ADAD. Dans un instant, BFM Bourse tout au long de l'après-midi en mode navette spatiale. Un SpaceX, on va vivre dans 4 minutes, 4 secondes précisément, le décollage de SpaceX en bourse et la cloche peut-être sonnée par Elon Musk en personne. On verra si son fils est là aussi. Puis la DG aussi de SpaceX qu'on va découvrir, la directrice générale. Eh oui, c'est une femme qui est à la tête opérationnelle de SpaceX. Figurez-vous. On va vivre tout ça tout au long de l'après-midi. On se donne rendez-vous dans 2 minutes. A tout de suite.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.